Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui omniprésents dans les relations humaines. Et puis en Turquie, le Premier ministre très fâché tente d'interdire certains réseaux qui dénoncent les dérives népotiques de son parti. En Iran, c'est un village montagneux qui est sauvé des intempéries par un abonné à un réseau social. Et notre confrère David Thompson nous raconte comment la plupart des combattants étrangers en Syrie, qu'ils viennent du Moyen-Orient ou d'Europe, ont été recrutés par le biais des réseaux sociaux. Témoignage à la clé. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchianti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Depuis le début de la guerre civile en Syrie, voici 3 ans, de nombreux jeunes Européens auraient rejoint l'un des mouvements d'opposition armée qui combattent les troupes du président Bachar el-Assad. Il y en aurait entre 2500 et 3000, selon les autorités de Bruxelles. Parmi eux, quelques 700 Français, dont certains en famille. Une vingtaine ont été tués au combat, dont 3 lors d'un attentat suicide. D'origine et de conditions différentes, ils ont tous néanmoins un point commun, les réseaux sociaux. C'est en effet par ce biais que beaucoup d'entre eux se sont informés, puis formés et parfois rencontrés. Bonjour David Thompson.
Bonjour.
Journaliste à Radio France Internationale. Vous publiez « Les Français djihadistes » aux éditions des Arènes. Il s'agit d'un patient travail d'enquête au cours duquel vous avez rencontré nombre de ces jeunes combattants et vous en avez rendu compte longuement sur les antennes de RFI ou de France 24. Vous mettez notamment en évidence le rôle joué par les réseaux sociaux. Est-ce donc généralement par Internet que ces jeunes sont recrutés ?
Oui, le rôle aujourd'hui d'Internet et en particulier des réseaux sociaux est déterminant et nouveau. D'ailleurs, il explique l'émergence dans les légions djihadistes aujourd'hui en Syrie d'une nouvelle catégorie de population qui est une population beaucoup plus jeune, qui avant n'était pas touchée par le message djihadiste, qui était cantonnée aux forums proches d'Al-Qaïda, qui sont réservés à une élite, si j'ose dire, de djihadistes. Il faut rentrer avec des codes, ça parle en arabe. Tandis que sur les réseaux sociaux, c'est accessible à tout le monde, ça touche un public très jeune. C'est en français, parce que la plupart des djihadistes français ne parlent pas arabe là-bas. Du coup, c'est ce qui explique qu'on retrouve aujourd'hui une quinzaine de mineurs dans les rangs de Jabhat al-Nusra ou de l'État islamique en Irak et au Levant. Ce qui explique qu'aujourd'hui aussi, on a affaire à des jeunes qui sont des récents convertis ou alors des gens qui ont fait un retour vers l'islam.
Mais il y a des sites dédiés ?
Il y a par exemple des pages Facebook dédiées, il y a des comptes Twitter, des gens qui aujourd'hui sont en Syrie et qui tweetent leur quotidien. Je prends l'exemple, là, récemment dans la ville d'Azaz, la charia a été appliquée sur des prisonniers kurdes, 4 ont été décapités, leurs têtes ont été laissées sur la place publique et ces photos ont immédiatement été postées par des jeunes français sur Twitter et sur Facebook, avec des vidéos également, et ça a donné lieu à des blagues, donc si vous voulez, ça banalise ce genre de choses. Et ça rend possible le passage à l'acte dans la mesure où sur place en Syrie, les jeunes Français qui sont encore en France voient des jeunes qui sont finalement exactement comme eux, qui ont grandi comme eux, qui ont grandi dans les quartiers populaires en France. Et finalement, ça devient possible. D'ailleurs, l'un d'entre eux me disait, le déclic, ça a été de voir une femme que je connaissais virtuellement partir d'elle-même là-bas en Syrie, de voir aussi des jeunes Français comme moi. Et il me disait, c'est plus du tout comme à l'époque de l'Afghanistan qu'on voyait des pachtounes dans des grottes. Là, on se disait, c'est des jeunes qui ont grandi avec la guerre, qui savent ce que c'est. Tandis que là, c'est des Français comme nous. Donc, ça devient possible. Donc, on y va. On n'a plus aucune excuse, me disait-il, pour ne pas y aller.
On écoute à ce propos Saif al-Kalam, un Français qui est actuellement en Syrie et auquel vous avez pu parler au téléphone. Il confirme que le recrutement se fait par le biais des réseaux sociaux.
Facebook, Skype, Twitter. Et la plupart des gens sont des gens qui se connaissaient déjà en France avant. Tu vois ? Parce qu'on ne fait pas rentrer des gens n'importe qui sous prétexte qu'ils veulent rentrer, de peur d'être infiltrés. Comme le prophète a dit, quand quelqu'un émigre vers vous, testez-le pour voir ses convictions, ses vraies convictions. Est-ce qu'il est là vraiment pour combattre ou c'est un informateur ?
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important de faire de la prédication de Syrie sur Internet ?
Ben, on a le devoir d'appeler nos frères à combattre, tu vois. On a le devoir d'appeler nos frères à la vérité et de leur expliquer nous-mêmes, ne serait-ce que par notre parcours et nos témoignages, qu'ils ne sont pas les seuls à se sentir seuls et incompris. La base de notre religion, c'est la prière. Et son sommet, c'est le combat dans la voie d'Allah. Allah, il a dit, j'ai mis les combattants au-dessus des croyants. Moi, je pleurais quand j'étais en France et que je regardais des vidéos de Moudjahidine qui ont lâché tout, leur famille, leurs biens, pour aller combattre. Ils ne combattent pas pour un salaire. Ils ne combattent pas pour les éloges. Ils combattent pour l'agrément de Dieu.
Alors, les jeunes qui sont déjà sur le terrain ont leur page Facebook, les alimentent, donc cela fait une certaine propagande pour attirer de nouveaux jeunes. Mais est-ce qu'il y a des sites plus de propagande, je dirais des sites officiels, qui cherchent à attirer tous ces jeunes européens et français ?
Si vous voulez, aujourd'hui, il y a le fameux forum djihadiste francophone qui est unique en son genre, qui s'appelle Ansar al-Haq, c'est-à-dire les partisans de la vérité. Aujourd'hui, ce forum ne sert pas du tout à quelque chose d'opérationnel. C'est pas du tout là qu'on apprend comment se rendre en Syrie. Ansar al-Haq, c'est un site qu'on peut considérer comme la plus grande bibliothèque virtuelle francophone djihadiste. Il y a des livres traduits en français au format PDF là-dessus qu'on ne trouve dans aucune bibliothèque la plus islamiste des islamistes en France. Parce que c'est des livres qui sont interdits, c'est des vidéos qui sont interdites. Donc voilà ce qu'on trouve sur ce genre de forum. Mais pour savoir, dans le domaine de l'opérationnel, comment on se rend en Syrie, pour avoir les contacts, pour savoir comment faire, pour savoir quel groupe rejoindre, tout simplement ça se passe sur Facebook, aussi simplement. Aujourd'hui, c'est ça aussi la force du djihad médiatique, c'est qu'il a quitté ces forums djihadistes secrets, qui étaient vraiment réservés à des initiés, pour rejoindre des plateformes totalement publiques. On est sur les sites que tout le monde fréquente.
Alors, est-ce que, par exemple, une télévision comme Al Jazeera, qui est souvent suspectée d'être proche des djihadistes, a aussi une action ? On se souvient, par exemple, que l'un de ses animateurs, qui est Moufti du Qatar, avait, dans une émission, justifié le fait que des jeunes mineurs puissent aller combattre en disant « je vous annonce qu'il n'est plus nécessaire d'avoir l'autorisation parentale ». Est-ce que ça agit aussi ?
Alors, je pense que vous faites allusion à l'émission « La charia ou la vie » de Kardawi. Les djihadistes considèrent que ce genre de personnalités qui sont proches des musulmans sont tout aussi mécréants que les autres mécréants. Parce que les frères musulmans, et ça vaut aussi pour Ennahda, ça vaut pour tous les mouvements islamistes politiques, ont accepté le jeu démocratique. Ils ont accepté de participer à des élections, ce qui les rend de fait, aux yeux des djihadistes, mécréants dans la mesure où, pour un djihadiste, la démocratie est par nature impie, dans la mesure où elle applique une autre autorité, elle légifère en dehors des lois de Dieu. Donc, tous les gens qui acceptent de jouer le jeu de la démocratie, à leurs yeux, sortent immédiatement de l'islam.
Alors, tous ces jeunes que vous avez rencontrés, qui ont accepté de vous répondre, vous êtes toujours présenté face à eux comme un journaliste, vous n'avez jamais tenté de vous cacher. Quand ils sont sur place, quand ils sont en Syrie, comment sont-ils accueillis par le reste de la population, aussi bien par les combattants que par les non-combattants ?
Alors, bien souvent, en fait, sur place, ces jeunes Français rejoignent, et ça vaut aussi pour toutes les autres nationalités aujourd'hui, rejoignent des gens qui affichent le même profil qu'eux, c'est-à-dire des jeunes, souvent de la même nationalité qu'eux, qu'ils ont connus sur Facebook ou alors dans la vraie vie avant de partir, et pas forcément des grands guerriers d'Al-Qaïda qui ont fait tous les djihads depuis l'Afghanistan aux côtés d'Oussama Ben Laden. Cela étant, ce type de personnalité, des grands guerriers chevronnés d'antan qui ont connu des grandes figures du djihad global, ils les croisent aussi en Syrie. C'est des gens auprès desquels ils vont se former. Et c'est en ce sens où un jeune qu'on va qualifier en France de djihadiste du clavier, de mujahidine du web, c'est-à-dire quelqu'un qui va beaucoup faire sur Facebook, mais peu dans la réalité, une fois qu'il a passé 6 mois ou 1 an en Syrie, c'est plus du tout le même profil.
Ce qui n'empêche pas les jeunes combattants de se regrouper par communauté linguistique, car beaucoup d'entre eux ne parlent pas l'arabe local, comme le confirme Saif al-Kalam, le djihadiste français que vous avez joint par téléphone en Syrie.
La plupart des Français ne maîtrisent pas l'arabe, tu vois. C'est-à-dire quand tu te retrouves sur un front et que ton émir ne parle que l'arabe, et comment veux-tu être opérationnel si tu ne comprends même pas ses ordres ? Et si tu ne comprends pas ce qu'il te dit, ça peut mener à une catastrophe. C'est pour ça que les gens qui ont été expérimentés en venant avant nous ont décidé de se réunir. Parce qu'il y a déjà des groupes de Marocains, des groupes d'Américains, des groupes d'Allemands. C'est surtout pour être compris et se faire comprendre sur le front.
C'est pour ça que la brigade des Français a été créée.
Voilà, et ça vient des Français, de par leur expérience sur le terrain. Des fois, il y a des Syriens, ils me parlent, je ne comprends rien. Parce qu'ils ont leur langage propre, tu vois. L'arabe, c'est une langue internationale au niveau des pays musulmans. Mais chaque pays a son dialecte, tu vois ce que je veux dire ? Un Marocain peut comprendre un Marocain, mais ne va pas forcément comprendre un Algérien ou un Tunisien.
Alors, quelles sont leurs motivations pour ce djihad ?
Alors, le djihad en Syrie a ceci de particulier qu'il est considéré par tous ceux qui le pratiquent, et c'est pour cela qu'il polarise l'attention des djihadistes du monde entier. Il est considéré comme prophétique parce que les djihadistes considèrent aujourd'hui que en Syrie se joue une grande prophétie mondiale, c'est-à-dire on est à l'aube de l'apocalypse, du retour du Messie le mardi, et avant cela, la renaissance du grand califat de l'État islamique qui sera garant d'une charia authentique. Ensuite, il y a un aspect plus personnel, c'est-à-dire que les gens partent là-bas dans l'espoir de bénéficier des faveurs du martyr en étant tués sur le champ de bataille, c'est-à-dire accession immédiate au dernier degré de paradis, la possibilité de faire rentrer 70 personnes de son choix avec soi au paradis, également les 72 femmes vierges, etc. Mais ça, c'est presque un détail, parce que pour eux, vraiment, ce qui est important, c'est vraiment l'accession au paradis. Ils ont l'impression qu'en arrivant en Syrie, immédiatement, ils sont lavés de tous leurs péchés parce qu'ils deviennent des élus.
Est-ce que les réseaux sociaux ont aussi attiré en Syrie d'autres jeunes, notamment du proche Moyen-Orient ?
Oui, le système que je décris pour les Français, il est identique, par exemple, pour les Tunisiens, que je connais assez bien aussi, puisque j'ai commencé à travailler avec eux. Eux aussi sont très présents sur Facebook. Tout est filmé, tout est posté sur Facebook. D'ailleurs, Facebook, au passage, a précisé sa politique au sujet des décapitations. On a le droit de poster une vidéo de décapitation sur Facebook tant qu'on n'y associe pas un message en faisant l'apologie. C'est pourtant ce que la plupart des jeunes font. C'est paradoxal, parce que dans l'idéologie salafiste djihadiste, la représentation du vivant est interdite. Donc à la fois, ils font ça tout en sachant que ce n'est pas forcément très islamiquement correct, mais ils savent le pouvoir de fascination que ces images ont sur les jeunes qui sont restés au pays, parce que eux-mêmes ont été influencés à partir grâce à cela. Et donc, ils le font, c'est vraiment pour inciter. C'est vraiment un acte de propagande au sens littéral du terme, c'est-à-dire propager la foi, propager l'obligation du djihad pour tout musulman. Donc cette culture des réseaux sociaux, c'est la même qu'on avait découverte pendant les révolutions arabes, et aujourd'hui elle sert la cause du djihad.
Merci David Thompson. Merci. Journaliste à Radio France Internationale. Je redonne le titre de votre ouvrage, Les Français djihadistes, aux éditions des Arènes. Porte-drapeau de la nouvelle scène à Beyrouth, Farik El-Atrache s'impose par son hip-hop volubile et instrumental qu'il met au service de musique engagée. En arabe dialectal, les deux chanteurs évoquent le quotidien, la politique et la société libanaise, comme dans ce morceau en deux parties, Sani El Arsa, qui raconte aussi la rencontre des membres du groupe.
بالمحطة ستحط الحطة ولا صرت تفهم فاسمح لي بالاسم انا بالشارع لمبة بضوع الشعب انت بالشارع لان شغلك زفت ازي انت underground فليك روح انقبر ولا طيزي قد بيحبوك على فيسبوك وتويتر انت عم تغني بس لعيط طولك اسمك لا بتعترف كنت احترمتك ما يكون لك فكر بس عم تدور على السبب بدل ما سبب يلاقيك وقل الشرف لك انك مغرور بشكل مش معقول ما عم بفهم عشو عم ينتفخ النفوخ عم حس كتير مهووس لحد يحبك فاروق يا عمي اهدى للنفور لما بتزعل فبتسأل اذا بيعرف كونغ فو ولا نينجا بمصر بيقولوا الواد شينو كده لانه وحش لانه جدع من وقت ما كان ولد وهيدي من اساتذة المدرسة مركز من الصبح الى المساء لاني مايسترو الاوركسترا ثانية لحظة فاصل شحطة خد نفس عميق فاضل لبرا ثانية لحظة فاصل شحطة خد نفس عميق
Farik El-Atrache était au festival Babel Med Music de Marseille la semaine dernière. Il est ce week-end en concert au Youkounkoun de Beyrouth.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem, où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alexandre, l'Arabie Saoudite occupe la une des journaux panarabes à l'occasion de la visite du président américain Barack Obama et aussi des promotions au sein de la famille régnante.
Pour Obama, il y a trois sujets à l'ordre du jour. Il y a l'Iran, le processus de paix israélo-palestinien et la Syrie. Alors l'Iran est le sujet le plus sensible puisque Riyad a très mal pris les négociations américano-iraniennes et l'éventualité d'un rapprochement entre Washington et Téhéran. Le roi Abdallah n'avait pas caché qu'il considérait l'Iran comme la tête du serpent. Alors, désaccord à régler aussi sur la question palestino-israélienne, puisque Riyad estime que les États-Unis mettent la pression sur les Palestiniens alors qu'ils ne font rien au sujet des colonies et de la volonté de Tel Aviv de faire reconnaître la judaïté d'Israël par les Palestiniens. Sur la Syrie, l'Arabie n'a pas apprécié la reculade d'Obama après son annonce d'une intervention militaire contre Bachar el-Assad.
Alors, la presse israélienne, Michel Paul, préfère s'intéresser cette semaine à l'ancien Premier ministre Ehud Olmert.
C'est le sujet qui fait la une, qui passionne tout au long de la semaine les Israéliens. En deux mots, la fidèle assistante de l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert change de tactique après des années de silence pour ne pas inculper son ex-patron. Eh bien, Shula Zaken est maintenant d'accord pour faire un témoignage à charge. Il s'avère qu'elle a en sa possession des enregistrements d'Ehud Olmert réalisés à son insu. En d'autres termes, Eric, l'ancien Premier ministre, qui se montrait très serein dans ses divers procès pour malversation, risque de payer le prix fort, une peine de prison ferme. Madame Zaken, elle, a passé un accord avec le parquet et elle va s'en tirer avec tout juste 11 mois derrière les barreaux. Shula Zaken cesse de jouer la marionnette, explique un éditorialiste, et cela se passe au moment où l'on joue les arrêts de jeu dans l'enquête sur Olmert, fait remarquer un autre chroniqueur. On parle aussi dans la presse de tragédie d'erreur. Si l'ancien Premier ministre pensait mettre finalement un point final à une saga judiciaire qui remonte à 2006, eh bien au contraire, cela ne fait que commencer.
Autre sujet à la une des journaux arabes, Alexandre Boutchanti, la candidature du maréchal Sisi à la présidence de l'Égypte.
Enfin, c'est le commentaire qui revient le plus souvent dans les journaux, qui annonçait depuis des semaines la candidature du maréchal sans que celle-ci ne se concrétise. Alors la plupart des journaux publient des photos du monsieur Abdel Fattah Sisi, puisqu'en principe il n'est plus maréchal, donc Abdel Fattah Sisi en costume bleu, et qui salue ses ex-confrères ministres, puisqu'il n'est plus aussi ministre de la Défense. Et contrairement à la plupart des journaux égyptiens, la presse arabe révèle que le nouveau chef d'état-major, le général Hegazi, est le parent par alliance de Sisi. Le fils de Sisi est marié à la fille du général Hegazi.
Et puis Alexandre, s'il y a une Sisi-mania, il y a aussi une Poutine-mania chez les journalistes arabes.
En tous les cas, chez les journalistes de gauche et nassériens qui pensent retrouver en Poutine un contre-pouvoir à la toute-puissance des États-Unis, un Poutine encensé, très populaire dans le monde arabe, un monde arabe qui, par définition, est hostile aux États-Unis, qu'il considère comme le principal soutien d'Israël. Et le journal Al-Shaklaus a conclu qu'en fait, le rêve de voir la Russie remplacer le vide laissé par l'Union soviétique est en réalité complètement irréaliste.
Alors, à lire également cette semaine dans la presse israélienne, Michel Paul, une étude intéressante sur le processus de paix.
Oui, c'est une étude qui paraît dans le journal hebdomadaire Mariv, hebdomadaire désormais, donc, selon le Centre palestinien de recherche politique, 76% des Palestiniens interrogés pensent que le dialogue avec Israël va se prolonger, 56% sont en faveur de tout accord qui aurait le soutien de Mahmoud Abbas, mais 74% pensent que la création d'un État palestinien dans un avenir proche n'est pas une option réaliste. Le journal cite aussi des responsables palestiniens qui affirme que sans une nouvelle vague de libération de détenus, eh bien la situation risque de dégénérer en intifada violente.
Alexandre, le journal Al-Ayat consacre un reportage aux enfants de Syrie au milieu de la tourmente.
Oui, tout à fait, et il les appelle les enfants de la génération perdue de Syrie. Alors, des enfants qui, selon le journal, ne vont plus à l'école, et où les plus vieux essayent d'aider les plus jeunes en leur apprenant quelques enseignements de lecture, d'écriture, et en fait, des enfants qui souvent sont en train d'aider leurs parents dans les combats, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et des enfants qui parlent aujourd'hui sans problème de la mort et qui jouent aux petits résistants ou aux petits soldats.
Et pour conclure cette revue de presse régionale, Michel Paul, votre photo du jour.
Et en fait, c'est un dessin qui paraît dans tous les journaux, un dessin de cadran de montre pour rappeler que hier matin, Israël est passé à l'heure d'été, et c'est un sujet qui fait l'objet d'un débat politique tous les ans et qui oppose religieux et laïcs.
Merci Michel, merci Alexandre. Réalisation François Porcheron. Vous pouvez écouter ou podcaster cette émission sur le site www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.